Chapitre 9. L'homme dit ça, j'étais trop mécontent du résultat de mon entreprise pour me sentir disposé à faire de nouvelles questions sur le château mystérieux. Je renfermais ma curiosité comme une honte. Le succès ne l'avait pas justifié, mais il n'en subsistait pas moins au fond de mon imagination, et je faisais de nouveaux projets pour la nuit suivante. En attendant, je résolus d'aller pousser une reconnaissance autour du château pour me ménager les moyens de pénétrer nuitamment dans l'intérieur de la place, s'il était possible. « Bah, me disais-je, tout est possible à celui qui veut. » J'allais sortir lorsqu'un petit paysan qui rôdait devant la route me regarda avec ce mélange de hardiesse et de poltronnerie qui caractérise les enfants de la campagne. Puis, comme j'observais sa mine à la fois expiègle et farouche, il vint à moi et, me présentant une lettre, il me dit « Regardez ça, si c'est pour vous. » Je lus mon nom et mon adresse, mon prénom, tracés fort lisiblement et d'une main élégante sur l'adresse. À peine eus-je fait un signe affirmatif que l'enfant s'enfuit sans attendre ni question ni récompense. Je courus à la signature, qui ne m'apprit rien d'officiel, mais à laquelle, pourtant, je ne me trompais pas. Stella et Béatrice. Oh, mais les jolis noms, m'écriai-je. Et je rentrai dans ma chambre, assez ému, je le confesse. Le hasard, aidé de la curiosité, disait cette gracieuse lettre parfumée, a fait découvrir à deux petites filles fort usées le nom de l'étranger qui a ramassé le nœud de ruban cerise. Des pas laissés sur la neige, coïncidant avec les avertissements de la belle chienne et Kat, ont prouvé à ces demoiselles que l'étranger était encore plus curieux que poli et prudent, et qu'il ne craignait pas de marcher sur les eaux pour surprendre les secrets d'autrui. Bien le sort en est jeté, puisque vous voulez être initié à nos mystères, ô jeune présomptueux, vous le serez. Puissiez-vous ne pas vous en repentir et vous montrer digne de notre confiance. Soyez muet comme la tombe. La plus légère indiscrétion me mettrait dans l'impossibilité de vous admettre. Venez à 8 heures du soir, solo e innocerato, au bord du fossé, vous y trouverez Stella et Béatrice. Tout le billet était écrit en italien et rédigé dans le pur toscan que je leur avais entendu parler. Je hâtais de dîner pour avoir le droit de sortir à 6 heures, prétextant que j'allais voir lever la lune sur le haut des collines. En effet, je fis une course au-delà du château et à 8 heures précises, j'étais au rendez-vous. Où j'attendis pas 5 minutes. Mes deux charmantes châtelaines parurent bien enveloppées et encapuchonnées. Je fus un peu inquiet lorsque j'eus franchi l'escalier d'en voir une troisième sur laquelle je ne comptais pas. Celle-là était masquée d'un loup de velours noir et son manteau avait la forme d'un domino de balle. Oh, ne soyez pas effrayé, me dit la petite Béatrice en me prenant sans façon par-dessous le bras. Nous sommes 3. Celle-ci est notre sœur aînée. Ne lui parlez pas, elle est sourde. D'ailleurs, il faut nous suivre sans dire un mot, sans faire une question. Il faut vous soumettre à tout ce que nous exigeons de vous. Et surtout la fantaisie de nous couper la moustache, les cheveux et même un peu de l'oreille. Vous allez voir des choses fort extraordinaires. Et faire tout ce qu'on vous commandera, sans hasarder la moindre objection, sans hésiter, et surtout sans rire, dès que vous aurez passé le seuil du sanctuaire. Le rire intempestif est odieux à notre chef, et je ne réponds pas de ce qui vous arriverait si vous ne comportiez pas avec la plus grande dignité. Monsieur, engage-t-il sa parole d'honnête homme, dit à son tour Stella, la seconde des deux sœurs, à nous obéir dans toutes vos prescriptions. Autrement, il ne fera point un pas de plus sur nos domaines. Et ma sœur aînée, que voici, et qui est sourde comme la loi du destin, l'enchaînera jusqu'au jour par une force magique au pied de cet arbre où il servira demain de risée aux passants. Pour cela, il ne faut qu'un signe de nous. Ainsi, parlez vite, monsieur.
Je jure, sur mon honneur et par le diable, si vous voulez, d'être à vous, corps et âme, jusqu'à demain matin.
À la bonne heure, dirent-elles. Et me prenant chacune par un bras, elles m'entraînèrent dans un dédale obscur de bosquets d'arbres verts. Le domino noir nous précédait, marchant vite, sans détourner la tête. Une branche ayant accroché le bas de son manteau, je vis se dessiner sur la neige une jambe très fine et qui pourtant me parut suspecte, car elle était chaussée d'un bas noir avec une floche de ruban pareille retombant sur le côté sans aucun indice de l'existence de jupons. Cette sœur aînée, sourde et muette, me fit l'effet d'un jeune garçon qui ne voulait pas se trahir par la voix et qui surveillait ma conduite auprès de ses sœurs pour me remettre à la raison s'il en était besoin. Je ne pus me défendre de sot amour propre de faire part de ma découverte, et j'en fus aussitôt châtié. « Pourquoi avez-vous manqué de confiance en moi ? » disais-je à mes deux jeunes amis. « Il n'était pas besoin de la présence de votre frère pour m'engager d'être auprès de vous le plus soumis et le plus respectueux des adeptes. »
« Et vous, pourquoi manquez-vous à votre serment ? » répliqua Stella d'un ton sévère. « Alors, il est trop tard pour y reculer, et il faut employer les grands moyens pour vous forcer au silence. »
Elle m'arrêta. Le domino noir me retourna, malgré ma surdité, et présenta un bandeau qu'elles trois elles placèrent sur mes yeux avec la précaution et la dextérité de jeunes filles qui connaissent les supercheries possibles du jeu de Colin-Maillard. « On vous fait grâce du baillon, me dit Béatrice, mais à la première parole que vous direz, vous ne l'échapperez pas, d'autant pas que nous allons trouver main forte, je vous en avertis. En attendant, donnez-nous vos mains. Vous ne serez pas assez fêlons, je pense, pour nous les retirer et pour nous forcer à vous les lier derrière le dos. » Je ne trouvais pas désagréable cette manière d'avoir les mains liées en les enlaçant à celles de deux filles charmantes, et la cérémonie du bandeau ne m'avait pas révolté non plus, car j'avais senti se poser doucement sur mon front et passer légèrement dans ma chevelure deux autres mains, celles de la sœur aînée, lesquelles, dégantées pour cet office d'exécuteur des hautes œuvres, ne me laissèrent plus aucun doute sur le sexe du personnel muet. Je dois dire à ma louange que je n'eus pas un instant d'inquiétude sur les suites de mon aventure. Quelque inexplicable qu'elle fût encore, je n'eus pas le provincialisme de redouter une mystification de mauvais goût. Je m'étais muni d'aucun poignard, et les menaces de mes jolies sibylles ne m'inspiraient aucune crainte pour mes oreilles ni même pour ma moustache. Je voyais assez clairement que j'avais affaire à des personnes d'esprit, et le souvenir de leur figure, le son de leur voix, ne trahissaient entre elles ni la méchanceté ni l'effronterie. Certes, elles étaient autorisées par leur père, qui sans doute me connaissait de réputation à me faire cet accueil romanesque, et ne le fussent-elles pas, il y a autour de la femme pure, je ne sais quelle indéfinissable atmosphère de candeur qui ne trompe pas le sens exercé d'un homme. Je sentis bientôt, à la chaleur de la température et à la sonorité de mes pas, que j'étais dans le château. On me fit monter plusieurs marches, on m'enferma dans une chambre, et la voix de Béatrice me cria à travers la porte
« Préparez-vous, ôtez votre bandeau, revêtez l'armure, mettez le casque, n'oubliez rien, on viendra vous chercher tout à l'heure. »
Je me trouvai seul dans un cabinet meublé seulement d'une grande glace, de deux quinquets et d'un sofa, sur lequel je vis une étrange armure. Un casque, une cuirasse, une cotte, des brassards, des jambards, le tout
mat et blanc comme de la pierre. J'y touchais. C'était du carton, mais si bien modelé et peint en relief pour figurer les ornements repoussés, qu'à deux pas, l'illusion était complète. La cote était en toile d'encollage et ses plis inflexibles simulaient on ne peut mieux la sculpture. Le style de l'accoutrement guerrier était un mélange d'antique et de rococo, comme on le voit employé dans les panoplies de nos derniers siècles. Je me hâtais de revêtir cet étrange costume. Même le masque, qui représentait la figure austère et chagrine d'un vieux capitaine, et dont les yeux blancs, doublés d'une gaze à l'intérieur, avaient quelque chose d'effrayant. En me regardant dans la glace, cette gaze ne me permettait pas une vision bien nette, et je me crus changé en pierre. Je reculais involontairement. La porte se ouvrit. Stella va m'examiner en silence et en posant son doigt sur ses lèvres. « C'est à merveille, » dit-elle en parlant bas. « L'homme dit Sasso est effroyable, mais n'oubliez pas les gants blancs. Oh, ceux-ci sont trop frais. Saisissez-les un peu, salissez-les contre la muraille pour leur donner un ton et des ombres. Il faut que, vu de près, tout fasse illusion. Bien, venez maintenant. Mes frères vous attendent, mais mon père ne se doute de rien. Alors, comportez-vous comme une statue bien raisonnable. N'ayez pas l'air de voir et d'entendre. » Elle me fit descendre un escalier dérobé, pratiqué dans l'épaisseur d'un mur énorme, puis elle ouvrit une porte en bas et me conduisit à un siège où elle me laissa en me disant tout bas, « Posez-vous bien, soyez artiste dans cette pose-là. » Elle disparut. Le plus grand silence régnait autour de moi, et ce ne fut qu'au bout de quelques secondes que la gaze de mon masque me permit de distinguer les objets mal éclairés qui m'environnaient. Qu'on juge de ma surprise, j'étais assis sur une tombe. Je faisais monument dans un coin de cimetière éclairé par la lune. De vrais ifs étaient plantés autour de moi, du vrai lierre grimpait sur mon piédestal. Il me fallut encore quelques instants pour m'assurer que j'étais dans un intérieur bien chauffé, éclairé par un clair de lune factice. Des branches de cyprès qui s'entrelaçaient par-dessus de ma tête me laissaient apercevoir des coins de ciel bleu, qui n'étaient pourtant que de la toile peinte éclairée par des lumières bleues. Mais tout cela était si artistement agencé qu'il fallait un effort de la raison pour reconnaître l'artifice. Étais-je sur un théâtre? Il y avait bien devant moi un grand rideau de velours vert, mais autour de moi rien ne sentait le théâtre. Rien n'était disposé pour des effets de scène ménagés aux spectateurs. Pas de coulisses apparentes pour l'acteur, mais des issues formées par des masses de branches vertes et voilant leurs extrémités par des toiles bleues perdues dans l'ombre. Point de quinquet visible. De quelque côté qu'on cherchât la lumière, elle venait d'en haut, comme des astres, et du point où l'on m'avait rivé sur mon socle funéraire, je ne pouvais saisir son foyer. Le plancher était caché sous un grand tapis vert imitant la mousse. Les tombes qui m'entouraient me semblaient de marbre tant elles étaient bien peintes et bien disposées. Dans le fond, derrière moi, s'élevait un faux mur qui ressemblait à un vrai mur à s'y tromper. On n'avait pas cherché ces lointains factices qui se font illusion qu'au parterre et contre lesquels l'acteur se heurte aux profondeurs de l'horizon. La scène dont je faisais partie était assez grande pour que rien n'y choquât l'apparence de la réalité. C'était une vaste salle arrangée de façon à ce que je puisse me croire dans une petite cour de couvent ou dans un coin de jardin destiné à d'illustres sépultures. Les cyprès semblaient plantés réellement dans de grosses pierres qu'on avait transportées pour les soutenir et où la mousse du parc était encore fraîche. Donc, je n'étais pas sur un théâtre, et pourtant je servais à une représentation quelconque. Et voici ce que j'imaginais. Monsieur de Balma était en fou. Ses enfants essayaient d'étranges fantaisies pour flatter la sienne. On lui servait des tableaux appropriés à la disposition lugubre ou riante de son cerveau malade. Car j'avais entendu rire et chanter la nuit précédente, quoiqu'on eût déjà pas mal de cimetières. J'entendis des chuchotements, des pas furtifs et des frôlements de robes derrière les massifs qui m'environnaient, puis la douce voix de Béatrice, parlant de derrière le rideau, prononça ces mots « Il est temps !» Alors un chœur, formé de quelques voix admirables, s'éleva de divers côtés, comme si des esprits eussent habité ces buissons de cyprès dont les tiges se balançaient sur ma tête et à mes pieds. J'arrangeais ma pose de commandeur, car je vis bien qu'il y avait du Don Juan dans cette affaire. Le chœur était de Mozart et chantait les admirables accords harmoniques du cimetière. Dirider finire, pria dell'aurora, ribaldo audace, l'ancial morti la pace. Involontairement, je mêlais ma voix à celle des fantômes invisibles, mais je me tus en voyant le rideau souffrir en face de moi. Il ne se leva pas comme une toile de théâtre. Il se sépara en deux contre un vrai rideau qu'il était, mais il ne m'en dévoila pas moins l'intérieur d'une jolie petite salle de spectacle ornée de deux rangées de belles loges décorées dans le goût de Louis XIV. Trois jolis lustres pendaient de la voûte. Il n'y avait pas de rampe allumée, mais il y avait la place d'un orchestre. Le plus curieux de tout cela, c'est qu'il n'y avait pas un spectateur, pas une âme dans toute cette salle, et que je me trouvais posé la statue devant les banquettes. « Oh, si c'est là toute la mystification que je subis, pensais-je, elle n'est pas bien méchante. Reste à savoir combien de temps on me laissera faire mon effet dans le vide. » Je n'attendis pas longtemps. Don Juan et Leporello sortirent du massif derrière moi, ils se mirent à causer. Leur costume admirable de vérité, de bon goût et d'exactitude ne me permirent pas de reconnaître tout de suite les acteurs, car Leporello surtout était rajeuni de 30 ans. Il avait la taille leste, la jambe ferme, une barbe noire taillée en collier andalou, une résille qui cachait son front ridé, mais à sa voix, pouvais-je hésiter un instant? C'était ce vieux Boccaferri, devenu un acteur élégant et alerte. Mais ce beau Don Juan, ce fier et poétique jeune homme qui s'appuyait négligemment sur mon piédestal, sans daigner tourner vers moi son visage, ombragé d'une perruque blonde et d'un large feutre Louis XIII à plumes blanches, quel était-il donc? Ce riche vêtement semblait emprunter un portrait de famille. Ce n'était point un costume de fantaisie, un composé de chiffons et de clinquants. C'était un véritable pourpoint de velours aussi court que le portaient les dandys de l'époque, avec des braies aussi larges, des passements aussi raides, des rubans aussi riches et aussi souples. Rien n'y sentait la boutique. Le magasin de costumes, l'arrangement infidèle par lequel l'auteur transige avec les bourgeoises du public en modifiant l'extravagance ou l'exagération des anciennes modes, non. C'était la première fois que j'avais sous les yeux un vrai personnage historique dans son vrai costume et dans sa manière de le porter. Pour moi, peintre, c'était une bonne fortune. Le jeune homme était svelte et fait autour. Il se dandinait comme un paon et me donnait une idée beaucoup plus juste de Don Juan que de me lui donner le Boccellio lui-même sur les planches. Car Boccellio y voulut mettre quelque chose de hautain et de tragique qui outrepasse la donnée du caractère. Mais tout à coup, sur une observation poltronne de Liporello Boccaferri, il leva la tête vers moi, statue d'un air de nonchalante ironie, et je reconnus Celio Florani en personne. Savait-il qui j'étais? Dans tous les cas, mon masque ne lui permettait guère de sourire à des traits connus, et comme la pièce me paraissait engagée avec un merveilleux sang-froid, je gardais ma pose immobile. Quand le premier effet de la surprise et de la joie se fut dissipé, car bien que je ne visse pas la Boccaferri, j'espérais qu'elle n'était pas loin, je prêtai l'oreille à la scène qui se jouait afin de ne pas la faire manquer. Mon rôle n'était pas difficile, puisque je n'avais qu'un geste à faire et un mot à dire. Mais encore, fallait-il les placer à propos? J'avais cru, d'après le cœur, ou faute d'instruments, des voix charmantes remplaçaient les combinaisons harmoniques de l'orchestre, qu'il s'agissait de l'opéra de Mozart, rendu d'une certaine façon. Mais le dialogue parlé de Celio de Boccaferri me fit croire qu'on jouait la comédie de Molière en italien. Je la savais presque par cœur en français. Je ne fus donc pas longtemps à m'apercevoir qu'on ne suivait pas cette version à la lettre. Car Donna Anna, vêtue de noir, traversa le fond du cimetière, s'approcha de moi comme pour prier sur ma tombe, puis apercevant deux promeneurs, elle se cacha pour écouter. Cette belle Donna Anna, costumée comme un Velasquez, était représentée par Stella. Elle était pâle et triste autant que son rôle le comportait dans cet instant. Elle apprit là que c'était Don Juan qui avait tué son père, car réprouvé s'en vanta presque en raillant le pauvre Liporello qui mourait de peur. Anna étouffa un cri en fuyant. Liporello répondit par un cri d'effroi et déclara à son maître que les âmes des morts étaient irritées de son impiété et que quant à lui, il ne traverserait pas cet endroit du cimetière et qu'il en ferait le tour extérieur plutôt que d'avancer d'un pas. Don Juan le prit par l'oreille et le força de lire l'inscription du monument du commandeur. Le pauvre valet déclara ne savoir pas lire, comme dans le libretto de l'opéra italien. La scène se prolongea d'une manière assez piquante à étudier, car c'était un composé de la comédie de Molière et du drame lyrique, mis en action et en langage vulgaire, le tout compliqué et développé par une troisième version que je ne connaissais pas et qui me parut improvisée. Cela faisait un dialogue trop étendu et parfois trop familier pour une scène qui se serait jouée en public, mais qui prenait là une réalité surprenante, à tel point que la convention ne s'y sentait pas du tout par moment, et que je croyais presque assister à un épisode de la vie de Don Juan. Le jeu des acteurs était si naturel, et le lieu où ils se tenaient si bien disposé pour la liberté de leurs mouvements, qu'ils n'avaient plus du tout l'air de jouer la comédie, mais de se persuader qu'ils étaient les vrais types du drame. Cette illusion me gagna moi-même quand je vis Liporello m'adresser l'invitation de son maître et montrer à mon inflexion de tête une terreur non équivoque. Jamais tremblement convulsif, jamais contraction du visage, jamais suffocation de la voix et flageolement des jambes n'appartinrent mieux à l'homme sérieusement épouvanté par un fait surnaturel. Don Juan lui-même fut ému lorsque je répondis à son insolente provocation par le « oui » funèbre. Un coup de tam-tam dans la coulisse et des accords lugubres faillirent me faire tressaillir moi-même. Don Juan conserva la tête haute, le corps raide, la flamberge arrogante retroussant le coin du manteau, mais il tremblait un peu. Sa moustache blonde se hérissait d'une horreur secrète. Il sortit en disant « Mais je me croyais à l'abri de pareilles hallucinations. Sortons d'ici !» Il passa devant moi en me toisant avec audace, mais son œil était arrondi par la peur et une sueur froide baignait son front altier. Il sortit avec les porello et le rideau se referma pendant que les esprits reprenaient la chœur du commencement de la scène. Diri del finirai, etc. Aussitôt, Donna Anna va me prendre par la main et m'aidant à me débarrasser du masque, elle me conduisit au bord du rideau en me disant de regarder avec précaution dans la salle. Le parterre de cette salle, qui n'était garni que d'une douzaine de fauteuils, d'une table chargée de papier et d'un piano à queue, devenait dans les entr'actes le foyer des acteurs. J'y vis le vieux Boccaferri s'éventant avec un éventail de femmes et respirant à pleine poitrine comme un homme qui vient d'être réellement très ému. Celio rassemblait les papiers sur la table. Béatrice, belle comme un ange, en costume de Zerlina, tenait par la main un charmant garçon encore imberbe qui me sembla devoir être Massetto. Un cinquième personnage, enveloppé d'un domino de balle, qui, retroussé sur sa hanche, laissait voir une manchette de dentelle sur un bas de soie noir, me tournait le dos. C'était la troisième prétendue demoiselle de Balma, la sourde, costumée en Ottavio, qui m'avait intrigué dans le jardin. Mais était-ce là, Cecilia? Elle me paraissait plus grande et cette tournure dégagée, cette pose de jeune homme ne me rappelait pas la Boccaferri à laquelle je n'avais jamais vu porter sur la scène des vêtements de notre sexe. J'allais demander son nom à Stella lorsque celle-ci mit le doigt sur ses lèvres et me fit signe d'écouter. « Bon Dieu !» disait Boccaferri à Celio, qui lui faisait compliment de la manière dont il avait joué. On aurait bien joué, à moins, mais j'étais mort de peur, cela tout de bon, car je n'avais pas vu la statue à la répétition d'hier. Et quoique j'aie coupé et peint moi-même toutes les pièces d'armure, je ne représentais pas le frais qu'elles produisent quand elles sont revêtues. Salvatore posait dans la perfection, et il a dit son oui avec un timbre aussi excellent que j'ai pas reconnu le son de sa voix. Et puis dans ce costume, il me faisait l'effet d'un géant. Mais où est-il donc, cet enfant, que je le complimente? Boccaferri se retourna brusquement et vit derrière lui le jeune homme auquel il s'adressait, occupé à mettre du rouge pour faire le personnage de Massetto. « Eh bien quoi ?» s'écria Boccaferri. « T'as déjà eu le temps de changer de costume ?»« Mais comment, mon vieux ?» répondit le jeune homme. « Tu crois que c'est moi qui ai fait la statue? Tu te souviens pas de m'avoir vu dans la coulisse au moment où tu es venu tomber à genoux, comme voulant fuir, au plus beau moment de la frayeur, et que tu m'as dit tout bas. Cette figure de pierre m'a fait vraiment peur. » « Moi, je t'ai dit cela, » reprit Boccaferri stupéfait. « Moi, je ne me souviens pas. Moi, je te voyais sans te voir. Je n'avais pas ma tête. » Oui, oh, j'ai eu réellement peur. Mais je suis content, notre essai réussi, mes enfants. Voilà que l'émotion nous gagne. Pour moi, c'est déjà fait, que vous en serez tous là, vous serez tous de grands artistes. Mais vieux fou, dit Celio en souriant, si ce n'était pas Salvatore qui faisait la statue, qui était-ce donc? Tu ne le demandes pas? Mais au fait, qui était-ce? Qui diable a fait cette statue? Et Boccaferri se leva tout effrayé en promenant des yeux hagards autour de lui. Le bonhomme est très impressionnable, me dit Stella. Il faudrait pas pousser plus loin l'épreuve. Nommez-vous avant de vous montrer.
Chapitre 10. Ottavio. Maître Boccaferri, criai-je en ouvrant doucement le rideau, reconnaissez-vous la voix du commandeur?
« Oui, morbleu, je reconnais cette voix, » répondit-il, « mais je puis pas dire à qui elle appartient. Mille diables, il y a ici un revenant ou un intrus, qu'est-ce que ça signifie, enfant ? » Cela signifie, mon père, dit Ottavio en se retournant et en montrant enfin les traits purs et nobles de la Cecilia, que nous avons ici un bon acteur et un bon ami de plus. Elle vint à moi en me tendant la main. Je m'élançai d'un bond dans l'emplacement de l'orchestre, je saisis sa main que je baisai à plusieurs reprises, et j'embrassai ensuite le vieux Boccaferri qui me tendait les bras. Oh, c'était la première fois que je songeais à lui donner cette accolade, dont la seule idée m'eût causé du dégoût 2 mois auparavant. Il est vrai que c'était la première fois que je ne trouvais pas ivre ou sentant la vieille pipe et le vin nouveau. Celio m'embrassa aussi avec plus d'effusion véritable que je n'y eusse cru disposer. La douleur de son fiasco semblait s'être effacée, et avec elle l'amertume de son langage et de sa physionomie. « Ami, me dit-il, oh, je veux te présenter à tout ce que j'aime. Tu vois ici les 4 enfants de la Florani, mes sœurs Stella et Béatrice et mon jeune frère Salvatore, le benjamin de la famille. Un bon enfant bien gai, qui pâlissait dans l'étude d'un homme de loi et qui a quitté ce noir métier de scribe il y a 2 jours pour venir se faire artiste à l'école de notre père adoptif, Boccaferri. Oui, nous sommes ici pour tout le reste de l'hiver, sans bouger. Nous y faisons les uns leur éducation, les autres leur stage dramatique. On t'expliquera cela plus tard. Maintenant, il ne faut pas trop t'absorber dans les embrassades et les explications, car on perdrait la pièce de vue. On se refroidirait sur l'affaire principale de la vie, sur ce qui passe avant tout ici, l'art dramatique. Un seul et dernier mot, lui dis-je en regardant Cecilia à la dérobée. Pourquoi, cruel, m'avez-vous abandonné? Si le plus incroyable, le plus inespéré des hasards ne m'eût conduit ici, je vous aurais peut-être jamais revu qu'à travers la rampe d'un théâtre. Car tu m'avais promis de m'écrire, Celio, et tu m'as oublié. Mais tu mens, répondit-il en riant. Une lettre de moi, avec une invitation de notre cher hôte, le marquis, te cherche à Vienne en ce moment-ci. Ne m'avais-tu pas dit que tu ne repasserais les Alpes qu'au printemps? Ce serait à toi de nous expliquer comment nous te retrouvons ici, ou plutôt comment tu as découvert notre retraite, et pourquoi il a fallu que ces demoiselles de compromis jusqu'à t'écrire un billet doux sous ma dictée pour te donner le courage d'entrer par la porte au lieu de venir rôder sous les ténèbres. Oh, si l'aventure d'hier soir ne m'eût pas mis sur les traces, si je les avais suivies ce matin, ces traces indiscrètes empreintes sur la neige, et cela jusque chez le voiturier Bolabou, où j'ai vu ton nom sur une caisse placée dans son hangar, tu nous ménageais donc quelque terrible surprise. Moi, oh, j'étais le plus sot et le plus innocent des curieux. Je ne vous savais pas ici. J'avais la tête échauffée par votre sabbat nocturne qui met en émoi tout le hameau, et je venais tâcher de surprendre les manies de monsieur le marquis de Balma. Mais à propos, m'écriai-je en éclatant de rire et en promenant aussitôt un regard inquiet et confus autour de moi. « Chez qui sommes-nous ici ? Et que faites-vous chez ce vieux marquis ? Comment peut-il dormir pendant que vous, pareil vacarme ?» Toute la troupe échangea à son tour des regards d'étonnement, et Béatrice éclata de rire comme je venais de le faire. Mais Boccaferri prit la parole avec beaucoup de sang-froid pour me répondre. Le vieux marquis est un bonhomme, en effet, dit-il. Mais il a la passion du théâtre, et son premier soin, dès qu'il s'est vu riche et maître d'un beau château, ça a été de recruter, par mon intermédiaire, la troupe choisie qui est sous vos yeux, et de la cacher ici en la faisant passer pour sa famille. Et comme il est grand d'honneur et passablement sourd, nous nous amusons à répéter sans qu'il nous gêne. Et au premier jour, nous ferons nos débuts devant lui, mais comme il est censé pleurer la mort du généreux frère qui ne l'a fait son héritier que par faute d'avoir songé à le déshériter, il nous a recommandé le plus grand mystère.
C'est pour cela que personne ne sait à quoi nous passons nos nuits. Et on aime mieux supposer que c'est à évoquer le diable qu'à nous occuper du plus vaste et du plus complet de tous les arts. Restez donc avec nous, Salantini, tant qu'il vous plaira, et si la partie vous amuse, soyez associés à notre théâtre. Comme je fais la pluie et le beau temps ici, on n'y saura pas votre vrai nom, s'il vous plaît d'en changer. Vous passerez même au besoin pour un sixième enfant du marquis. C'est moi, son bras droit et son factotum, qui choisit les sujets et qui les dirige. Vous voyez que je suis lié de vieille date avec ce monseigneur. Cela ne doit pas vous étonner. C'était un vieil ivrogne et nous nous sommes connus au cabaret, mais nous nous sommes amendés ici. Et depuis que nous avons le vin à discrétion, nous sommes d'une sobriété qui vous charmera. Allons, nous oublions trop la pièce et ce n'est pas dans un entracte qu'il faut se raconter des histoires. Voulez-vous faire jusqu'au bout le rôle de la statue? Oh, ce n'est qu'une entrée en marionnage. Demain, on vous donnera dans une autre pièce le rôle que vous voudrez, ou bien vous prendrez celui d'Ottavio, et Cecilia créera celui d'Elvire, que nous avions supprimé. Vous avez déjà compris que nous inventons au théâtre des nouvelles formes et complètement un autre usage. Nous prenons le premier scénario venu et nous improvisons le dialogue, aidé des souvenirs du texte. Quand un sujet nous plaît, comme celui-ci, ben nous l'étudions pendant quelques jours en le modifiant ad libitum. Sinon, ben nous passons à un autre et souvent nous faisons nous-mêmes le sujet de nos drames et de nos comédies, en laissant à l'intelligence et à la fantaisie de chaque personnage le soin d'en tirer parti. Vous voyez déjà qu'il ne s'agit pas pour nous que de nous oser d'être des créateurs, et non interprète servile. Nous cherchons l'inspiration, elle nous vient peu à peu. Au reste, tout ceci s'éclaircira pour vous en voyant comment nous nous y prenons. Il est déjà 10 heures et nous n'avons doué que 2 actes. À l'opéra, mes enfants! Les jeunes gens au décor, les demoiselles au manuscrit pour nous aider dans l'ordre des scènes, car il faut de l'ordre, même dans l'inspiration. Allez, vite, vite, voici un entracte qui doit indisposer le public. Boca rit pendant ça ses derniers mots d'un ton qui lui fait croire qu'il avait sous les yeux un public imaginaire remplissant cette salle vide et sonore. Mais il n'était pas maniaque, le moins du monde. Il se livrait à une consciencieuse étude de l'art et il faisait d'admirables élèves en cherchant lui-même à mettre en pratique des théories qui avait été le rêve de sa vie entière. Nous nous occupâmes de changer la scène. On se le fit en un clin d'œil, tant les pièces du décor étaient bien montées, légères, faciles à remuer, et la salle bien machinée. Ceci était une ancienne salle de spectacle, parfaitement construite et entendue, me dit Boccaferri. Les Balmas ont eu de tout temps la passion du théâtre. Sauf le dernier, qui est mort triste, ennuyé, parfaitement égoïste et nul, faute d'avoir cultivé et compris cet art divin. Le marquis actuel est le digne fils de ses pères, et son premier soin était d'exhumer les décors et les costumes qui remplissaient cette aile de son manoir. C'est moi qui ai rendu la vie à tous ces cadavres gisant dans la poussière. Vous savez que c'était mon métier là-bas. Il m'a pas fallu plus de 8 jours pour rendre la couleur et l'élasticité à tout ça. Et ma fille, oh, qui est une grande artiste, a rajeuni les habillements, elle aura rendu le style et l'exactitude dont on faisait bon marché il y a 50 ans. Les petites fleurs a dit, qui voulait être artiste aussi un jour, l'aide en profitant de ses leçons. Et moi, avec Celio, qui vaut 10 hommes pour la promptitude et l'exécution, l'adresse des mains et la rapidité d'intuition, eh bien, nous avons imaginé de faire un théâtre dont nous puissions jouer nous-mêmes, et qui ne m'offrit pas à nos yeux désabusés à chaque instant C'est l'aise intérieure de coulisses pelées où le froid vous saisit le cœur et l'esprit dès que vous y rentrez. Mais nous ne nous manquerons pas pour cela du public qui est censé partager nos illusions. Nous agissons en tout comme si le public était là, mais nous n'y pensons que dans l'entracte. Pendant l'action, il est convenu qu'on l'oubliera, comme cela devait être quand on joue pour tout le monde devant lui. Quant à notre système de décor, placez-vous au fond de la salle et vous verrez qu'il fait plus d'effet et d'illusion que s'il y avait eu un ignoble à envers tourné vers nous et dont le public, placé de côté, aperçoit toujours une partie. Il est vrai que nous employons ici, pour notre propre satisfaction, des moyens d'un riff dont le charme serait perdu sur un grand théâtre. Nous plantons de vrais arbres sur nos planches, nous mettons de vrais rochers jusqu'au fond de notre scène. Bon, nous le pouvons parce qu'elle est petite et nous le devons même parce que les grands moyens de la perspective nous sont interdits. Nous n'aurions pas assez de distance pour qu'ils nous fassent illusion à nous-mêmes, et le jour où nous manquerions de l'illusion de la vie, celle de l'esprit nous manquera. Tout se tient, l'art est homogène, c'est un résumé magnifique de l'ébranlement de toutes nos facultés. Le théâtre est ce résumé par excellence, et voilà pourquoi il n'y a ni vrai théâtre, ni acteur vrai ou fort peu. Et ceux-là qui ne le sont pas toujours compris, parce qu'ils se trouvent enchâssés comme des perles fines au milieu des diamants faux dont l'éclat brutal les efface. Il y a peu d'acteurs vrais et tous devraient l'être. Mais qu'est-ce qu'un acteur sans cette première condition essentielle et vitale de son art? On devrait distinguer le talent de la médiocrité que par le plus ou moins de l'élévation d'esprit des personnes. Un homme de cœur et d'intelligence serait forcément un grand acteur si les règles de l'art étaient connues et observées, au lieu qu'on voit souvent le contraire. Une femme belle, intelligente, généreuse dans ses passions, exercée à la grâce libre et naturelle, ne pourrait pas être au second rang, comme l'a toujours été ma fille, qui n'a pas pu développer sur la scène l'âme et le génie qu'elle a dans la vie réelle. Faute de se trouver dans un milieu assez artiste pour l'impressionner, elle a toujours été glacée par le théâtre. Et vous la verrez pourtant ici, vous la reconnaîtrez point. C'est qu'ici rien ne nous choque et ne nous contriste. Nous élargissons par la fantaisie le cadre où nous voulons nous mouvoir et la poésie du décor et la dorure du cadre. « Oui, monsieur, » continua Boccaferri avec animation, tout en arrangeant mille détails matériels sans cesser de causer, « la vraisemblance de la mise en scène, celle des caractères, celle du dialogue et jusqu'à celle du costume, voilà de quoi refroidir l'aspiration d'un artiste qui comprend le vrai et qui ne peut s'accommoder du faux. Il n'y a rien de bête comme un acteur qui se passionne dans une scène impossible et qui prononce avec éloquence ses discours absurdes. C'est parce qu'on fait de pareilles pièces et qu'on les monte par-dessus le marché avec une absurdité digne d'elle qu'on n'a point d'acteur vrai. Et je vous le disais, tous devraient l'être. Rappelez-vous la Cecilia. Elle a trop d'intelligence pour ne pas sentir le vrai. Vous l'avez vu, souvent insuffisante, presque toujours trop concentrée et cachant son émotion. Mais vous ne l'avez jamais vue donner à côté, ni tomber dans le faux, et pourtant, c'était une pâle actrice. Telle qu'elle était, elle ne disparaît rien, et la pièce n'en allait pas plus mal. Eh bien, je dis ceci, que le théâtre soit vrai, tous les acteurs seront vrais, même les plus médiocres ou les plus timides. Que le théâtre soit vrai, tous les êtres intelligents et courageux seront de grands acteurs. Et dans les intervalles où ceux-ci n'occuperont pas la scène, où le public se reposera de l'émotion produite par eux, les acteurs secondaires seront du moins naïfs, vraisemblables. Au lieu d'une torture qu'on subit à voir grimacer des sujets détestables, On éprouvera un certain bien-être confiant à suivre l'action dans les détails nécessaires à son développement. Le public se formera à cette école, et au lieu d'injuste et de stupide qu'il est aujourd'hui, il deviendra consciencieux, attentif, amateur des œuvres bien faites et ami des artistes de bonne foi. Donc jusque-là qu'on ne me parle pas de théâtre, car vraiment c'est un art quasi perdu dans le monde. Il faudra tous les efforts d'un génie complet pour le ressusciter. « Oui, mon Ficellio, » dit-il en s'adressant au jeune homme qui attendait pour faire commencer l'acte qu'il eût cessé de babiller. « Ta mère, la grande artiste, avait compris cela. Elle m'avait écouté et elle m'a toujours rendu justice en disant qu'elle me devait beaucoup. C'est parce qu'elle partageait mes idées qu'elle voulut faire elle-même les pièces qu'elle jouait, être la directrice de son théâtre, choisir et former ses acteurs. Elle sentait qu'une grande actrice a besoin de bons interlocuteurs et que la tirade d'une héroïne n'est pas inspirée quand sa confidente l'écoute d'un air bête. Nous avons fait ensemble des essais hardis. J'ai été son décorateur, son machiniste, son répétiteur, son costumier et parfois même son poète. La rue gagnait sans doute, mais non les affaires. Il eut fallu une immense fortune pour vaincre les premiers obstacles qui s'élevaient de toutes parts. Et puis le public ne sait point seconder les nobles efforts. Il est mieux s'abrutir à bon marché que de s'enrichir et d'emblir à grands frais. Mais toi, Celio, mais vous, Stella, Béatrice, Salvatore, vous êtes jeunes, vous êtes unis, vous comprenez l'art maintenant et vous pouvez à vous quatre tenter une rénovation. Ayez-en du moins le désir, caressez-en l'espérance, quand même ce ne serait qu'un rêve, quand même ce que nous faisons ici ne serait qu'un amusement poétique. Il vous en restera quelque chose qui vous fera supérieur aux acteurs vulgaires et aux supériorités ficelles. Oh, mes enfants, mais laissez-moi vous souffler le feu sacré qui me rajeunit et qui m'a consumé en vin jusqu'ici, faute d'aliments à mon usage. Je ne regretterai pas d'avoir échoué toute ma vie en toute chose, d'avoir été aux prises avec la misère jusqu'à être forcé d'échapper au suicide par l'ivresse. Non, non, je me plaindrai de rien dans mon triste passé. Si la vivace postérité de la Floriani élève son triomphe sur mes débris, si Celio, son frère et ses sœurs, réalisent le rêve de leur mère, et si le pauvre vieux Boccaferri peut s'acquitter aussi envers la mémoire de cet ange.
Tu as raison, ami, répondit Celio. C'était le rêve de ma mère de nous voir grands artistes. Mais pour cela, disait-elle, il fallait renouveler l'art. Nous comprenons aujourd'hui, grâce à toi, ce qu'elle voulait dire. Nous comprenons aussi pourquoi elle prit sa retraite à 30 ans, dans tout l'éclat de sa force et de son génie, c'est-à-dire pourquoi elle était déjà dégoûtée du théâtre et privée d'illusions. Oh, je ne sais si nous ferons faire un progrès à l'esprit humain sous ce rapport, mais nous le tenterons, et quoi qu'il arrive, nous bénirons tes enseignements. Nous rapporterons à toi toutes nos jouissances, car nous en aurons de grandes, et si les goûts exquis que tu nous donnes nous exposent à souffrir plus souvent du contact des mauvaises choses, du moins, quand nous toucherons aux grandes, nous les sentirons plus vivement que le vulgaire. Nous passâmes au troisième acte qui était emprunté presque en entier au libretto italien. C'était une fête champêtre donnée par Don Juan à ses vassaux et à ses voisins de campagne dans les jardins de son château. J'admirais avec quelle adresse le scénario de Boccaferri déguisait les impossibilités d'une mise en scène où manquaient les comparses. La foule était toujours censée se mouvoir et agir autour de la scène, où elle n'entrait jamais et pour cause. De temps en temps, un des acteurs, hors de scène, imitait avec soin des murmures, des trépignements lointains.
Derrière les décors, on fredonnait pianissimo sur un instrument invisible un air de danse tiré de l'opéra en simulant un bal à distance. Ces détails étaient improvisés avec un art extrême, chacun prenant part à l'action avec une grande ardeur et beaucoup de délicatesse de moyens pour seconder les personnages en scène sans les distraire ni les déranger. L'arrangement ingénieux des coulisses étroites et sombres, ne recevant que le jour du théâtre qui s'éteignait dans leur profondeur, permettait à chacun d'observer et de saisir tout ce qui se passait sur la scène sans troubler la vraisemblance en se montrant aux personnages en action. Tout le monde était occupé et personne n'avait la faculté de se distraire une seule minute du sujet, ce qui faisait qu'on s'entrait en scène aussi abîmé qu'on en était sorti. Je trouvais donc le moyen de m'utiliser activement, bien que n'ayant pas à paraître dans cet acte. Le scénario, surtout, était la chose délicate à observer, et si je ne l'eusse pas vu pratiquer à ces êtres intelligents qui me communiquaient à mon insu leur finesse de perception, je n'aurais pas cru possible de s'abandonner au hasard de l'improvisation sans manquer à la proportion des scènes, à l'ordre des entrées et des sorties et à la mémoire des détails convenus. Il paraît que, dans les premiers essais, cette difficulté avait paru insurmontable au Floriani. Mais Boccaferri et sa fille, ayant persisté, et leur théorie sur la nature de l'inspiration, dans l'art et sur la méthode d'en tirer parti, ayant éclairé ce mystérieux travail, la lumière s'était faite dans ce premier chaos, l'ordre et la logique avaient repris leur droit inaliénable dans toute opération saine de l'art, et l'effrayant obstacle avait été vaincu avec une rapidité surprenante. On n'en était même plus à s'avertir les uns les autres par des clins d'œil et des mots à la dérobée, comme on avait fait au commencement. Chacun avait sa règle écrite en caractères inflexibles dans la pensée. Le brillant des à-propos dans le dialogue, l'entraînement de la passion, le sel de la promptue, la fantaisie de la divagation, avaient toute leur liberté d'allure, et cependant l'action ne s'égarait point où, si elle semblait oubliée un instant pour être réengagée et ressaisie sur un incident fortuit, la ressemblant de ce mode d'action dramatique avec la vie réelle, ce grand décousu, recousu sans cesse à propos, n'en était que plus frappante et plus attachante. Dans cet acte, j'admirais d'abord deux talents nouveaux, Béatrice Zerlina et Salvatore Massetto. Ces deux beaux enfants avaient l'inappréciable mérite d'être aussi jeunes et aussi frais que leur rôle, et l'habitude de leur familiarité fraternelle donnait à leur dispute un adorable caractère de chasteté et d'obstination enfantine qui ne gâtait rien à celui de la scène. Ce n'était pas là tout à fait pourtant l'intention du libretto italien, encore moins celle de Molière, mais qu'importe. La chose, pour être rendue d'instinct, me parut meilleure ainsi. Le jeune Salvatore, le Benjamin, comme on l'appelait, joua comme un ange. Il ne chercha pas à être comique, et il le fut. Il parla le dialecte milanais, dont il savait toutes les gentillesses et toutes les naïves métaphores pour en avoir été bercé naguère. Il eut un sentiment vrai des dangers que courait Zerline à se laisser courtiser par un libertin. Il la tensa sur sa coquetterie avec une liberté de frère qui rendit d'autant plus naturelle la franchise du paysan. Il sut lui adresser ces malices de l'intimité qui piquent un peu les jeunes filles quand elles sont dites devant un étranger, et Béatrice fut piquée tout de bon, ce qui fit d'elle une merveilleuse actrice sans qu'elle y songeât. Mais à ce joli couple succéda un couple plus expérimenté et plus savant, Anna et Ottavio. Stella était une héroïne pénétrante de noblesse, de douleur et de rêverie. Je vis qu'elle avait bien lu et compris le Don Juan d'Hoffmann
et qu'elle complétait le personnage du libretto en laissant pressentir une délicate nuance d'entraînement involontaire pour l'irrésistible ennemi de son sang et de son bonheur. Ce point fut touché d'une manière exquise, et cette victime d'une secrète fatalité fut plus vertueuse et plus intéressante ainsi que la fière et forte fille du commandeur, pleurant et vengeant son père sans défaillance et sans pitié. Mais que dirais-je d'Ottavio? Je ne concevais pas ce qu'on pouvait faire de ce personnage en lui retranchant la musique qu'il chante, car c'est Mozart seul qui eût à fait quelque chose. La Boccheraferi avait donc tout à créer, et elle créa de maintes maîtres. Elle développa la tendresse, le dévouement, l'indignation, la persévérance que Mozart seul s'est indiqué. Elle traduisit la pensée du maître dans un langage aussi élevé que sa musique. Elle donna à ce jeune amant la poésie, la grâce, la fierté, l'amour surtout. « Oui, c'est là de l'amour, » me dit tout à coup Celio, en s'approchant de mon oreille dans la coulisse, comme s'il eût répandu à ma pensée. « Écoute et regarde à Cecilia, mon ami, et t'as-je oublié le serment que je t'ai fait de ne jamais l'aimer? Je ne peux plus te répondre de rien à cet égard, car je ne la connaissais pas il y a 2 mois. Je n'avais jamais entendu exprimer l'amour et je ne savais pas qu'elle pût le ressentir. Oui, je le sais maintenant, que je la vois loin du public où elle la paralysait. Elle s'est transformée à mes yeux, et moi, je me suis transformé au mien propre. Je me crois capable d'aimer autant qu'elle. Reste à savoir si nous serons l'un à l'autre l'objet de cette ardeur qui couve en nous, sans autre but déterminé, à l'heure qu'il est, que la révélation de l'art. Mais ne te fie plus à ton ami, Adorno, et travaille pour ton compte, sans l'appeler à ton aide. » En parlant ainsi, Celio me tenait la main et me la serrait avec une force convulsive. Je sentis, au tremblement de tout son être, que lui ou moi étions perdus. « Qu'est-ce que cela ?» nous dit Boccaferri en passant près de nous. « Une distraction, un dialogue dans la coulisse? Voulez-vous donc faire envoler le dieu qui vous inspire? Allons, Don Juan, retrouvez-vous. Oubliez Celio Fiorani et allez tourmenter Masetto. »